Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous. Racisme, violence policière, quelle réalité en France? C'est le thème du débat auquel vous allez assister dans quelques instants en direct sur Sud Radio, mais aussi en live vidéo sur les réseaux sociaux. Un débat qui promet d'être vif, mais j'espère courtois. Ils sont en train de s'installer dans ce studio. D'un côté, Jean Messia, délégué national du Rassemblement National, et de l'autre, Egoun Chibéanzin, fondateur de la Ligue de Défense Noire Africaine. Le débat commence dans quelques minutes. Ne le manquez pas, tout de suite en direct sur Sud Radio.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bienvenue à tous, ça y est, nous y sommes en direct sur Sud Radio, mais aussi en live sur Facebook et YouTube pour une spéciale Les Incorrectibles, une émission exceptionnelle à l'occasion d'un débat sur le thème racisme, violence policière, quelle réalité en France? Un sujet particulièrement sensible, un débat à l'issue duquel Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, nous donnera son point de vue. Alors sans plus attendre, je vous présente donc nos deux débatteurs, deux personnalités aux idées radicalement opposées que je remercie pour leur présence. Tout d'abord, Jean Messia, membre du Rassemblement National et délégué national études et argumentaires. D'origine égyptienne, il est naturalisé français à l'âge de 20 ans et se considère comme un Français de souche par naturalisation. Jean Messia, bonjour.
Bonjour.
Et puis à ma gauche, il s'appelle Egoun Chibéanzin. Il est fondateur, leader et porte-parole de la Ligue de Défense Noire Africaine. Il se présente comme un mouvement pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains. Il mène des actions sociales et humanitaires. Bonjour, Monsieur Béanzin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, avant donc de lancer le débat, je rappelle qu'il s'inscrit dans un contexte de manifestation mondiale suite à la mort de George Floyd, devenu le symbole des violences policières et du racisme de la police aux États-Unis. Et puis d'autre part, des rassemblements du 2 juin dernier et d'hier pour réclamer justice dans l'affaire Adama Traoré, mort suite à une interpellation par des gendarmes en banlieue parisienne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, je vais vous demander à chacun d'entre vous un bref mot sur les manifestations d'hier qui ont rassemblé une foule impressionnante, notamment à Paris. On parle de 15 000 manifestants, et ce malgré l'interdiction de rassemblement ordonnée par la préfecture et l'obligation de rester statique malgré les revendications des organisateurs. Jean Messia, vous commencez ce débat, c'est donc M. Egoun Chibéanzin qui le terminera. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces manifestations hier?
Bah écoutez, ces manifestations ont été aussi violentes qu'injustifiées et, pour tout dire, minoritaires. Moi, je me souviens que quand il y avait 350 000 personnes gilets jaunes au tout début du mouvement, vous aviez tout le système médiatico-politique qui nous expliquait que par rapport à 66 millions d'habitants, ça ne représentait rien. Je constate que les mêmes aujourd'hui mettent une loupe grossissante sur une minorité qui ne représente personne, peut-être elle-même, mais personne, mais qui bénéficie effectivement de relais à la fois politique et médiatique très complaisant pour en faire une sorte de mode social ou sociétal. Voilà, en tout cas, je pense que cela appelle à un réveil de la France face à des minorités qui peuvent être très actives, qui sont dans la revendication et qui sont, de par les relais dont ils bénéficient, une menace très clairement identifiée pour la nation française.
Une menace pour la nation française. Egoun Chibéanzin.
En tout cas, de notre part, on salue la sœur Assa Traoré. Et je tenais à dire que ce n'était pas 15 000 personnes, mais 150 000 personnes.
Égide de la préfecture.
Hein. D'accord. La préfecture, c'est la préfecture, mais nous, on y était. Il y avait 150 000 personnes et il y avait de tout le monde. C'était le peuple qui était là hier. C'est le peuple qui est sorti, ce n'est pas une minorité. Il y avait de tout le monde. Il y avait des Français, il y avait des Asiatiques, il y avait de tout le monde. Donc réduire cette manifestation sur une minorité, encore une fois, c'est la propagande, on connaît très bien, du Front National, du Rassemblement National, dont Monsieur Messia est le toutou. Donc ça ne nous étonne pas de ces propos. Merci.
Bon, bah, ça commence bien. Alors,
juste un petit mot. Moi, je ne vais pas me permettre de vous invectiver ou de vous insulter.
Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vous ai insulté.
Je vous ai. Ben si, quand vous me titez de toutou.
Vous allez bien, sinon
ça va très bien. Vous êtes un antiraciste. Vous vous battez contre le racisme.
Non, je suis un panafricain.
Voilà, oui.
Mais je suis un panafricain.
Voilà, mais donc vous êtes raciste alors.
Non, un panafricain. Vous ne connaissez pas le panafricanisme.
Oui, mais alors respectez au moins la part d'africanité qu'il y a en moi, puisque je suis d'origine égyptienne, donc ne me traitez pas toutou.
Ah, mais là, vous êtes d'origine égyptienne.
Ne me traitez pas toutou.
Vous êtes plus gaulois.
Non, moi je suis d'origine égyptienne, j'ai de l'affection pour l'Égypte, mais ça fait 40 ans que je vis en France. D'accord. Je suis devenu français, j'ai de la nationalité française.
Bah, bravo. Donc on va en parler de tout ça.
J'essaye de me comporter comme
si vous le voulez bien, en effet, on va essayer d'être respectueux.
En fonction de l'identité du pays dont je porte la citoyenneté, ce qui n'est pas votre cas. Alors, je ne connais pas votre statut.
Monsieur Jean-Michel Le Gaulois.
Voilà. On va essayer de ne pas s'invectiver. Alors, Egunchi Benzin, vous avez, c'est vrai, on va tout de suite parler donc de ce thème, le racisme dans la société française. Y a-t-il un racisme d'État? Y a-t-il des discriminations? Egunchi Benzin, vous avez prononcé des mots qui ont profondément choqué certains. Vous en avez, je pense, conscience. C'était la semaine dernière à Paris. Vous avez dit, je vous cite, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Mais qui est l'État à vos yeux que vous décrivez là?
L'État français que défend M. Jean Messia.
Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que l'État français est un État terroriste, esclavagiste et colonialiste?
Quand on terrorise un peuple, quand on impose à un peuple des choses que le peuple ne veut pas, le terrorisme ce n'est pas le fait forcément d'aller se faire exploser avec une bombe. Le terrorisme, c'est quelque chose... Gouvernement, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement impose, terrorise un peuple qui sort dehors pour manifester, par exemple, les gilets jaunes qui se font tabasser, c'est terroriser un peuple pour ne pas que ce peuple puisse aille réclamer ses droits. Donc, par rapport à la politique française extérieure de la France en Afrique, l'État français est un État terroriste. Et je maintiens mes propos. L'État français est un État terroriste. Parce que l'État français impose des choses à tout un peuple, à des pays africains, des choses qu'ils ne veulent pas. Donc l'État français est un État terroriste.
Jean Messier, une réaction?
Écoutez, Monsieur Béanzin, si l'État français était terroriste, en tout cas, vous êtes la preuve vivante que la France n'est ni totalitaire, comme vous le dites, ni raciste, ni terroriste. Parce que si elle était totalitaire, si elle était raciste, vous seriez au mieux au fond d'une prison, au pire, au fond d'un trou. D'accord. Oui. Donc, je pense que la France, par contre, est suffisamment idiote de tolérer que quelqu'un
que
comme vous
mouvement,
l'insulte aussi gravement.
La dissolution du mouvement de M. Béanzin.
Je ne connais pas votre statut, franchement, mais si vous êtes, immigré avec une carte de résident, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déjà dans un avion pour repartir de là où vous venez. Oh. En tout cas, si j'étais ministre de l'Intérieur, ça serait déjà fait.
Mais vous le serez
jamais. Si vous êtes français, eh bien vous êtes la preuve de ces folles politiques migratoires qui ont accordé la nationalité à des ennemis de la République.
D'accord, mais Oussam Boutros Messia.
Oui, monsieur Sylvain Afoua.
Encore une fois, vous vous trompez. Voilà. D'ailleurs, je vous ai ramené ma carte d'identité.
C'est vrai que c'est...
Je veux vous dire, monsieur Oussam Boutros, que je suis plus français que vous. Vous êtes français depuis 90, monsieur.
Et alors?
Vous voyez ce livre,
ça se voit pas.
Vous voyez ce livre? La Ve République, dedans. Si on regarde bien, 60% de ce livre, c'est les Africains. Il y a mes descendants, mes grands-parents dedans.
D'accord.
Écoutez, monsieur.
Alors comment vous dites que la France est raciste alors?
Laissez-moi finir.
Comment la France peut être raciste?
60% qui ont fait la 5e République sont des Africains.
Mais la 5e République est
vous
raciste.
Vous ne connaissez même pas ce livre. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais les 60% qui ont fait la 5e République sont où? À l'Assemblée nationale.
Mais
monsieur,
vous êtes contradictoire, monsieur.
Laissez-moi finir, monsieur. Vous êtes français depuis 90.
Et alors, c'est quoi le problème?
Je suis né français. Mes grands-parents sont nés français.
Oui,
mes grands-parents sont morts pour la France.
Oui.
Mes ancêtres ont été déportés par la France, ont construit la France, enrichi la France. Vous n'allez pas nous donner de leçons de franciser ou vous jouez le français plus que les Français.
Les grands collaborateurs vichistes étaient français aussi. Hein,
pourtant,
ça ne veut rien
vous
dire.
Êtes un collabo, monsieur.
Non, vous êtes un ennemi de la France, monsieur.
Mais non, parce que je suis plus français que vous.
Vous êtes un traître à votre patrie.
Mais
si vous dites que vous êtes
français...
Vous êtes
tellement complexé, vous avez un problème d'identité.
Attendez,
En tant qu'être humain, vous avez un problème d'identité.
Non, monsieur.
Qui fait que vous êtes obligé d'aller changer votre nom, votre prénom, mais vous savez...
Et vous l'avez changé.
Pas du tout, je n'ai rien changé du tout.
D'après ce qu'on lit, c'est vrai, dans
les médias...
Le mieux dans cette histoire, c'est que monsieur... a pris le nom de Béanzin, qui est un roi dahoméen, qui était parmi les rois les plus esclavagistes de l'Afrique.
C'est le grand
sociologue Ndiaye Sénégalais qui le dit, et vous voulez déboulonner la statue de Colbert.
Vous aimez beaucoup citer Ndiaye parce qu'il fait des choses qui va dans votre sens.
Mais je veux vous dire une chose,
si Béanzin, comme vous dites, était un criminel ou un esclavagiste, alors De Gaulle est trois fois pire. Mais nous ne l'oublions pas que la France a déporté Monsieur Béanzin en Martinique parce qu'il était contre la colonisation française. Et le monsieur Béhanzin, c'est un de mes ancêtres.
D'accord.
D'accord. Je suis descendant du royaume d'Abomey, comme vous êtes en train de dire. Donc la différence, elle est là, encore une fois, monsieur. Je vous dis, la République, c'est nous.
Okay.
C'est nous, la République, ce n'est pas vous, la République.
On peut se parler calmement.
Vous comprenez?
On peut se parler calmement.
C'est nous, la République, ce n'est pas vous, la République.
Je peux vous répondre calmement.
Je suis très calme, monsieur.
Moi, je vais vous répondre calmement.
Oui, on y va.
Vous m'avez dit, et c'est d'ailleurs très intéressant, que la Ve République, ce en quoi je suis d'accord avec vous, effectivement, il y avait énormément de personnalités d'origine africaine dans la Ve République.
60%.
Il y avait même plusieurs ministres africains dans la Ve République.
60%
d'Africains. Voilà. Donc comment pouvez-vous, à partir de ce constat, maintenir cette idée complètement délirante que la France est raciste?
Mais bien sûr.
Attendez, je termine. Un État raciste, c'est le Troisième Reich. Le Troisième Reich n'avait pas de ministre juif.
Mais d'ailleurs,
la France a eu des ministres noirs.
Mais c'est vos idoles, les gens de la Troisième Reich.
Mais ça,
Rassemblement national.
C'est de la diffamation.
Mais on a vu les photos. On a tous vu les photos de Marine Le Pen.
Je pense que vos idées sont bonnes. Je pense que vos idées sont...
Mais si, c'est ce que vous défendez.
Mais laissez-moi finir. Vos idées sont beaucoup plus proches... D'accord, de l'intégrisme et du racisme du Troisième Reich que les miennes.
Non, c'est plus vous qui défendez, et c'est vos amis
c'est
vous
qui
les
dites, c'est vous qui dites qu'il ne faut pas aller dans les magasins chinois, dans les magasins arabes,
on fait comme
dans
vous,
les
monsieur.
Magasins français.
Mais on fait comme
vous. Donc c'est vous
mais
le raciste.
Est-ce que favoriser les siens quand on est abandonné, quand on est délaissé par la République, le fait de dire, écoutez, il nous faut l'économie. Nous aussi, on doit construire notre économie, d'accord? Le pouvoir noir, l'économie, socialement, on a le droit. Ce n'est pas interdit en France, être communautaire, monsieur. Est-ce que le code pénal interdit à quelqu'un d'être communautaire? Plus grand communautarisme visible, c'est le communautarisme des Blancs. Est-ce qu'on en parle, monsieur?
Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre.
Voilà.
La vérité, monsieur, c'est qu'en France, un noir africain, un noir, est plus en sécurité qu'en Afrique.
Ah bon?
La vérité, c'est qu'un noir en France
est
mieux éduqué qu'en Afrique.
Non.
La vérité,
c'est
qu'un noir bénéficie en France de bien plus de prestations sociales qu'en Afrique. La vérité, c'est qu'en France, un noir bénéficie d'une égalité devant la loi, devant l'éducation, devant le médical.
La France s'enrichit, pille le sous-sol, et c'est grâce à cela que vous êtes là, monsieur.
Alors, je vais vous dire.
Parce que sans les richesses des Africains que l'État terroriste, esclavagiste, colonialiste, française pille en Afrique, vous serez gelé comme un poisson tilapia dans un carton, monsieur.
Je vais vous répondre.
Vous comprenez ou pas?
Je vais vous poser une question.
Votre grande thèse, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'Afrique est paupérisée en raison de la colonisation et de ce qu'ont fait les Européens de manière générale, les Occidentaux de manière générale, et en particulier la France.
Oui.
Ok, d'accord. Alors, expliquez-moi pourquoi un continent comme le continent asiatique, qui a aussi été colonisé par des Blancs, qui ont été massacrés par des Japonais, comme en Corée ou en Chine.
Oui.
Aujourd'hui, les élites du continent asiatique rivalisent avec les élites occidentales.
Oui.
Il y a trois pays, monsieur, africains, en tout cas noirs, qui n'ont jamais été colonisés.
Oui.
L'Éthiopie,
oui.
Le Libéria,
oui.
Et Haïti... Et Haïti qui se proclame la plus ancienne république noire fondée en 1804.
Oui.
Ces trois pays qui n'ont jamais été colonisés sont les trois pays les plus pauvres du monde.
Et n'ont pas été esclavagisés.
Alors je termine.
Mais la France aussi
Je termine en disant.
Et l'Égypte aussi, ne l'oubliez pas.
Non, mais c'est pas la question.
Vous êtes égyptien.
Votre raisonnement.
Mais il faut que les Français cherchent que Jean-Messia. Vous êtes égyptien.
En réalité,
des origines égyptiennes.
Mais dans ce cas, pourquoi il attaque les autres?
Oui, mais moi j'ai choisi d'être français.
Mais
monsieur.
Vous avez choisi, mais les autres ont le droit de choisir ce qu'ils veulent.
Moi je choisis
d'être français. Vous n'avez pas à imposer aux gens ce qu'ils doivent être.
Dites-moi.
Parce que l'assimilation, ce n'est pas. Vous ne devez pas forcer. Vous savez, l'universalisme, totalitarisme que vous voulez imposer aux gens. À un moment, en France.
Pas du tout.
Monsieur, je veux vous dire une chose.
Moi je vous force pas à rester en France, monsieur Béhanzin.
Monsieur Oussam.
Je ne veux. Monsieur Sylvain, je ne veux. Sylvain, fois, je ne vous oblige pas à rester en France.
Monsieur Oussam, il faut comprendre que les gens ont le droit de vivre en France comme ils le souhaitent. Ça ne vous dérange pas, qu'en Corse, d'accord, vous dites « je suis Corse ». Ça ne vous dérange pas qu'en Breton, vous dit « je suis breton ». Un Normand vous dit « je suis breton ». Mais dès qu'on arrive sur les Noirs, les citoyens afro-descendants, quand ils vous disent « je suis Congolais, je suis Martiniquais, je suis Guadeloupéen », ça vous dérange.
Pas du tout.
Mais l'assimilation, savez, si vous êtes une personne déracinée...
Attendez, les gens que vous avez cités...
Les gens vous êtes déracinés,
monsieur. Non, mais je n'ai pas fini.
Oui, mais je n'ai pas fini.
Les gens que vous avez cités, ils n'insultent pas la France.
Soyez respectueux. Soyez respectueux.
Je vais terminer votre phrase.
Si vous êtes une personne déracinée, c'est votre problème.
Non, pas
mais
du tout.
Mais il faut pas que ça vous dérange qu'en France, il y a des personnes qui soient enracinées et assument leur identité. Alors. Notre culture, je suis de culture négro-africaine.
Alors, qu'est-ce que vous faites en France?
Mais parce que je suis français.
Ben non.
Pas, si.
Vous pouvez pas dire je suis français en disant la France
est... Je suis de culture négro-africaine.
Je dois répondre. Si vous dites que la France est un pays totalitaire, un pays terroriste, un pays esclavagiste, et que vous vous prétendez français, c'est vous qui avez un problème d'identité, monsieur. Parce
mais
que moi, à votre place, je ne resterai pas dans un pays aussi odieux.
Bah si, parce que ce pays, c'est grâce à mes ancêtres que ce pays existe.
C'est pas
la richesse de ce pays, c'est mes ancêtres.
Mais bien sûr que non.
Monsieur, mes grands-parents sont morts pour la France.
Attendez, ça fait 100 ans.
Mes grands-parents qui ont libéré la France pour qu'aujourd'hui, vous soyez français naturalisé depuis 90.
Je vous ai laissé parler.
Est-ce que vous le comprenez ou pas?
Vous pouvez me laisser parler.
Mes grands-parents...
Vous pouvez me laisser parler.
Mes grands-parents ont été déportés dans des camps.
Vous pouvez me laisser parler.
Mes grands-parents ont été déportés dans des camps, d'accord, pour libérer la France. Et De Gaulle, une fois la libération terminée,
dont les statues
a blanchi.
Sont aujourd'hui des boulonnais.
Voilà. A blanchi. Parce que De Gaulle est un criminel, monsieur.
Mais voilà.
De Gaulle est un criminel. Vous voulez que je vous cite? Au Cameroun, De Gaulle a fait assassiner plus de 400 000 Camerounais, monsieur.
Mais non, mais
400 000 Camerounais. Au Napalm. Au Napalm. Donc, ne faites pas, vous êtes journaliste.
Ça, c'est de la désinformation.
C'est pas de la désinformation,
de la propagande historique.
Monsieur De Gaulle a tué Thomas Sankara. Non,
attendez.
D'accord, François Mitterrand. Ils ont participé. Vous savez tous que De Gaulle, ce que De Gaulle a fait en Afrique.
François Mitterrand également était...
François Mitterrand a fait tuer Sankara.
Vous décrédibilisez votre cause.
De Gaulle, avant François Mitterrand, qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique? Qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique, monsieur? Vous savez tous les crimes que De Gaulle a commis en Afrique. Mais parce que c'est tabou, vous n'osez pas dire la vérité.
La vérité doit sortir.
Voilà, la vérité. Les sympathisants, les adhérents du Rassemblement national, les Français doivent comprendre que monsieur
De
Gaulle...
Ni les sympathisants du Rassemblement national, ni les Français, de manière générale, quelque couleur qu'ils soient, croient à vos fadaises, monsieur.
Ah bon?
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le colonialisme est terminé depuis une soixantaine d'années.
Faux. L'esclavagisme existe encore.
L'esclavagisme est terminé depuis 160 ans.
Mais alors, les réparations.
Et donc, si vous voulez, ce sont les élites, la responsabilité, c'est les élites africaines.
Oui, c'est trop facile, ça.
Qui ont ruiné.
Mais qui met ces élites là?
Qui ont ruiné l'Afrique.
Mais qui met ces élites?
Qui ont ruiné l'Afrique.
Mais qui met ces élites?
La colonisation et l'esclavagisme sont instrumentalisés par des gens comme monsieur Sylvain Afoua.
Non, monsieur Oussam Boutros. Vous mentez, Oussam Boutros.
Qui vient nous expliquer un peu comme les décrocheurs scolaires.
Oui.
Que c'est pas leur faute, c'est la faute des profs.
Mais non,
ceux qui ont des mauvaises notes, c'est pas leur faute.
Regardez,
c'est la faute des profs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, un Africain face à la police française, un noir face à la police française, il a nettement moins de chances de se faire blesser ou de se faire tuer qu'en Afrique. En Afrique, un voleur est tabassé par l'armée, par la police. Aujourd'hui, en France, lorsque vous avez des manifestations comme celle d'hier, laissez-moi finir. Aujourd'hui, quand vous avez des manifestations de personnes d'origine africaine ou d'origine nord-africaine, les policiers ont pour instruction justement de la plus grande retenue.
C'est faux.
Combien ont été borniés
hier?
C'est faux. Combien ont été amputés?
Mais
vous savez combien de gilets jaunes?
Mais vous savez
gilets
combien de personnes se font éborgner dans les banlieues?
Ont été amputés.
Connaissez-vous le nombre de personnes
pendant le conflit? Pendant le confinement, on a eu des émeutes dans les cités, des flics qui ont été caillassés, on a même tiré sur les flics à l'arme de poing.
Combien
de personnes ont été éborniées, mutilées dans les banlieues françaises?
Mais vous défendez
à l'occasion
l'État français
des,
ou
à
le
l'occasion
peuple français
des émeutes. Je défends
vous êtes
la
en
France.
Collabo de l'État français.
Si vous n'êtes pas heureux en France, monsieur, partez chez vous.
Non, vous allez repartir avant
partez
nous.
Partez
mais
chez
la
vous.
Différence avec vous, c'est que nous, on va changer la France.
Aucun pays au
allons le changer et vivre
pays
tous ensemble.
Aucun pays,
contrairement à vous.
La vérité, c'est que vous n'accepteriez pas de vivre une seule semaine dans un pays africain.
Bah, pourtant,
vous
on y
ici,
est tout le temps.
Vous êtes ici, vous
mais
profitez
non,
de la France, de ses largesses,
de
ses prestations
la France
sociales.
La France qui n'arrive même pas à fournir des masques à sa population.
De ses prestations sociales.
L'État français,
et vous permettez de
ils ont laissé mourir plus de 30 000 personnes.
Aucun pays au monde qui a un respect de lui-même n'accepterait, ne tolérerait des gens comme vous sur son territoire.
Mais encore vous, c'est pire, parce que vous êtes en traite, monsieur.
Vous êtes un traître. Vous avez la nationalité française.
Mais regardez,
vous dites
monsieur,
que vous avez.
Parce
vous dites,
que nous, on n'est plus.
Moi, j'insulte pas la France.
La République,
moi,
c'est nous.
Moi, j'insulte pas la
France, s'il vous plaît.
Mais, monsieur Oussam.
Bon.
Monsieur Oussam.
Oui, monsieur Sylvain.
Monsieur Oussam.
Oui, monsieur Sylvain.
La République, c'est nous. C'est nous la République.
Ah bah putain, heureusement que vous êtes
c'est
pas la République.
C'est nous la République.
Hein. Heureusement que vous êtes pas la République.
Je vous ai déjà posé la question. Ouais. Est-ce que un de vos grands-parents ou ancêtres sont morts pour libérer la France? Citez-moi une personne.
Mais ça veut rien
dire.
Votre famille. Et alors?
Alors écoutez-moi
et
bien.
Alors
écoutez-moi
le
bien.
Le maréchal
monsieur.
Pétain était un héros
monsieur,
de la Première Guerre mondiale. C'était le plus grand collaborateur.
Mais c'est
alors
votre
arrêtez.
Idole. Vous l'idolâtrez.
Mais non, je l'idolâtre
vous
pas. Vous arrêtez de dire des
monsieur.
Conneries. Mais
si,
non. Mais non.
Bon, écoutez. Ouais. Quand vous dites ce monsieur, il faut quand même dire la vérité. Ce monsieur, chaque matin, se lève, va sur les
et
plateaux
on va
télé.
La dans deux minutes.
Pendant que les gens dans les banlieues se lèvent pour aller faire tourner la France, parce que c'est ceux
bien
qui
sûr,
habitent il... dans les banlieues.
D'accord.
Monsieur, c'est ceux qui habitent
la
dans
France
les banlieues.
N'a jamais
laissez-moi
eu un
finir. C'est ceux qui habitent dans les banlieues
blanc,
que vous stigmatisez, qui font tourner la France.
C'est vrai.
Vous
y
avez
a,
quand même osé dire
sûr.
Publiquement qu'il fallait fichier S 5 millions de musulmans en France parce que le terroriste de Nice n'était pas fiché S.
Si, monsieur, ça c'est de la diffamation. C'est de la diffamation.
Voilà, monsieur.
Non,
c'est écrit.
J'ai pas dit ça.
Quand on pense que 5 millions de, de musulmans en France ne sont pas fichés S.
Pourquoi?
Ça veut dire quoi, monsieur?
Parce qu'à l'époque, les
mais
gens.
Ça veut dire quoi, ça?
Jean-Messia,
ça veut dire
quoi?
Vous avez un problème,
non,
alors, avec. Vous
ça
avez
ça
un problème.
Ça veut dire
des
que
gens qui ne sont pas comme
ça,
vous,
pas
monsieur.
Du tout.
La France, soi-disant,
bon,
catholique-gaulois, ça n'existe plus.
Vous
comprenez,
ça
n'existe plus.
Bien sûr, ça
n'existe plus.
Vous ne représentez rien.
Alors, pourquoi vous voulez ficher 5 millions de musulmans?
La France vous dépassera.
Pourquoi vous voulez ficher 5 millions de musulmans?
Vous et votre.
Répondez, monsieur.
Vous et votre
non,
mouvement,
mais cher monsieur, vous savez qu'on ne s'entend pas
pourquoi
du tout si
vous
voulez ficher
5 millions
de musulmans.
Vous et votre mouvement.
Répondez, monsieur Oussam.
Pourquoi
vous voulez ficher 5 millions de musulmans?
Si vous enchaînez la question, si vous me répondez, c'est
pareil.
Vous et votre mouvement.
5 millions de musulmans,
vous et votre mouvement.
Pourquoi vouloir ficher 5 millions de musulmans?
Vous et votre mouvement, vous n'êtes qu'une tâche invisible.
Pourquoi vous voulez ficher 5 millions de musulmans?
Vous êtes une tâche invisible à l'œil nu.
Vous êtes en grainerie.
Vous êtes une tâche invisible à l'œil nu.
Vous ne répondez pas.
S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on va lancer une courte pause.
Il veut mettre en fichier S.
Je n'ai jamais dit, mais ça
ne s'entend pas, vous parlez les uns sur les autres. On revient dans un instant et on parlera de ce sujet aussi au sein de la police, du racisme, est-ce qu'il y en a ou pas, avec vous, Jean Messia et Egunchi Benzin, tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillot.
De retour dans ce studio de Sud Radio avec ce débat racisme, violence policière, quelle réalité en France, un débat plus qu'animé entre Egunchi Benzin, donc le fondateur et leader de la Ligue de Défense Noire Africaine, et Jean Messia, membre du Bureau National du Rassemblement National. Alors, les tensions sont un peu retombées, je vous remercie, puisque si on pouvait quand même terminer ce débat dans des conditions à peu près correctes, ce serait bien. Alors on va, si vous le voulez bien, tous les deux aborder aussi ce sujet qui monopolise beaucoup l'actualité, à savoir, y a-t-il ou pas un racisme au sein de la police? Alors Egunchi Benzin, je vais encore vous citer, parce que vous y allez en effet pas par quatre chemins sur Twitter, je vous cite, la méthode à la Martin Luther King ne marche plus face aux agressions contre notre race, on applique la méthode Malcolm X, violence proportionnelle à l'agression. Vous considérez vraiment que la police dans son ensemble est raciste, Chungi Benzin?
Bon, d'abord, pour répondre à cette question, je pense que là, vous êtes parti prendre un tweet qui a aucun rapport...
d'avril 2020.
Oui, mais aucun rapport avec la police sur ce tweet.
Non, mais de manière générale.
D'accord.
Je fais le lien, puisqu'en effet...
Nos revendications sont très simples. C'est-à-dire, nous disons...
Vous prenez la violence, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Pas la violence, non, du tout. Nous prenons l'autodéfense.
Ah,
l'autodéfense.
Donc ça veut dire face à une violence qui existerait?
Voilà.
À votre endroit.
C'est-à-dire que
comme les suprémacistes blancs américains.
Du
pareil.
Tout. Au fait, l'autodéfense, c'est-à-dire que se défendre, apprendre à se défendre, protéger le peuple quand on se fait agresser. En France, on a le droit à la légitime défense. Donc ça veut dire que
face aux forces de l'ordre, en tout
non,
cas.
Non, on parle pas des forces de l'ordre. Mon tweet n'avait aucun rapport avec les forces.
Bon, alors
de
maintenant,
l'ordre.
Je parle des forces de l'ordre.
Ne mélangez pas. Voilà.
J'étais un peu forcé de faire le lien.
À propos des violences policières, nous notre position.
On n'est pas aux États-Unis. Est-ce que vous considérez qu'on est dans une situation
en France,
similaire?
C'est un problème étatique. C'est un problème étatique. Et ce que nous revendiquons, ce que nous demandons.
Pensez que l'État est au service du dominant blanc, c'est ça?
L'État est du service de. En France, il y a un racisme institutionnel. Oui, il y a un racisme institutionnel en
qui
France.
Qui vous permet de parler à la radio ?
D'accord, mais parler à une radio, vous pensez que c'est pour... ça veut dire que ça n'existe pas ?
Qui vous permet de manifester ?
Mais bien sûr qu'il y a un racisme institutionnel
monsieur,
en France, monsieur.
C'est l'Afrique du Sud.
Mais non, c'est faux.
C'est ça, c'est l'apartheid mais d'Afrique du Sud.
C'est faux, vous
on
montez...
On a ça en France.
La preuve que vous êtes là, vous réclamez, vous essayez d'empêcher les
non,
gens
mais y a pas de, racisme
de manifester.
Si vous êtes là tous les
pas
deux.
Donc
bah non,
nous, on parle de racisme institutionnel, monsieur. D'accord ? Et en France, il y a un racisme systémique. Donc... Le problème, nous, ce que nous défendons à la LDNA, le problème n'est pas la police. Le problème, c'est le racisme au sein de la police. Des policiers qui portent l'uniforme et qui ont des idéologies...
Vous pensez qu'il y a un délit au faciès ?
De l'extrême. Bien sûr qu'il y a des délits de faciès. Quand des policiers qui sont censés défendre les citoyens, peu importe leur couleur, abordent l'idéologie de l'extrême droite, du Rassemblement National, il y a de quoi s'inquiéter. Nous, ce que nous disons, nos revendications sont très simples. La police n'est pas le problème.
C'est bon, l'idéologie du Rassemblement National est une idéologie raciste.
Mais bien sûr, la preuve que...
Mais attendez...
Vous savez, Jérôme Rodriguez n'a pas hésité à traiter un agent de sécurité de sale nègre, sale singe, sur une vidéo... D'accord.
Quand on est rapport avec Jérôme Rodriguez et le Rassemblement
National. Il était membre du Front National.
Non, Jérôme Rodriguez n'est pas membre du Rassemblement
D'accord
National. Non.
Quand on essaie,
monsieur, c'est n'importe quoi ce que vous
si,
dites.
Si Rodriguez,
c'est un représentant des Gilets jaunes.
Non,
dites
non,
pas de bêtises.
Ah non, je confonds. Pas Jérôme Rodriguez. Ah oui, il s'appelle Rodriguez. Rodriguez. D'accord. Il était chez vous. Il a insulté un agent de sécurité de sale noire, de sale nègre. D'accord.
D'accord.
On a la vidéo.
D'abord, quand on y avoir des.
Non, monsieur, c'est pas la première fois. Vous voulez qu'on vous sorte là les fiches des membres du Front National.
Tous étaient
du
virés,
Rassemblement
monsieur.
National ils qui tiennent des propos,
nous dit
que ce soit
tous été exclus, et Marine Le Pen, en effet, a toujours été clair là-dessus.
Là
oui, allez-y, répondez
alors,
là-dessus.
Premièrement, quand on identifie ce genre de cas, ils sont immédiatement virés. À l'extrême gauche, je ne crois pas que ça soit pareil dans le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. On a des
on s'en fout de Jean-Luc Mélenchon,
on a régulièrement des propos.
Pourquoi nous parlez-vous
mais
de Jean-Luc Mélenchon?
Je vous ai laissé parler pendant 5 minutes, monsieur. Si vous me coupez la parole systématiquement, moi je m'en vais. C'est pas un débat, c'est un monologue. C'est un monologue.
Là, en l'occurrence, c'est moi qui distribue la parole. Donc Jean-Messier, allez-y répondre,
non, mais
s'il
voilà,
vous plaît.
Nous, quand, évidemment, nous avons des millions de personnes chez nous. Donc quand il y a des brebis galeuses qui sont identifiées, elles sont immédiatement exclues, sans ménagement.
Mais pourquoi vous
n'êtes
pas mouvements.
Exclu,
vous,
alors
bah, malgré que, les propos racistes, pourquoi, islamophobes,
considérez que Jean-Messier, vous
attendez,
avez des propos racistes.
Vous qui dites qu'il ne faut pas aller acheter chez les Chinois, il ne faut pas aller acheter chez les Blancs,
mais
il ne faut pas aller acheter chez n'importe qui autre que des Noirs.
Oui.
Vous êtes un suprémaciste noir.
Non, je ne suis pas
un raciste noir, monsieur.
Et vous, vous êtes quoi, alors?
Vous êtes un raciste.
Monsieur.
Non,
vous êtes un fasciste.
Non, ça c'est de la
vous
diffamation.
Vous êtes un fasciste parce que
sortez-moi
vous voulez exterminer 5 millions de musulmans parce que
quoi.
Musulmans.
Moi je l'ai jamais dit. Vous avez
Monsieur
des vidéos Oussam. Qui traînent
Monsieur
c'est
Oussam.
Vous avez des
Monsieur
vidéos
Oussam.
Qui traînent c'est à vous.
Monsieur Oussam.
Vous êtes comparable.
Est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur Messia d'abord?
Laissez-moi finir. Vous êtes comparable au suprême.
Si nous sommes là aujourd'hui, il faut comprendre une chose.
Vous êtes comparable au suprémacisme blanc qui veulent exterminer les noirs.
Nous sommes là pas si vous parlez tous les deux en même temps.
Vous êtes un suprémaciste noir qui ne rêve que d'une chose, c'est d'exterminer tout ce qui n'est pas noir.
Regardez notre caméraman.
Vous êtes un raciste. Vous êtes un nazi noir.
Non, non, mais c'est pas ici la question.
Vous êtes un nazi noir. Vous êtes un nazi noir.
C'est bizarre.
Voilà.
On vous a libéré des nazis et maintenant on est des nazis noirs.
Vous êtes un nazi noir. Exactement. Vous avez
Vous êtes
pour le troisième Reich africain.
Monsieur Béanzin.
À propos des violences policières.
Voilà. C'est pas qu'il faut apporter un peu de nuance.
Nos revendications sont très simples. Ce que nous demandons aujourd'hui, et encore une fois, je le répète, le problème n'est pas la police, mais l'injustice dans la police.
Il y a des policiers noirs ou maghrébins, je vous le rappelle,
peu
monsieur Béanzin.
C'est défendu pour lui.
Pas du tout.
Bien sûr.
Parce que je suis le
vous
premier.
Vous cautionnez le fait qu'il soit insulté, traité de vendu. Il y avait cette image.
J'ai pas vu l'image, je ne sais pas.
Elle a circulé sur tous les réseaux sociaux.
Non, mais répondez.
Vous la condamnez.
Écoutez, monsieur, je suis le premier, je le répète ici à Sud Radio. Monsieur, je répète à Sud Radio, j'invite les Noirs, les personnes issues de notre communauté
qui
sont
rentrées
dans
la
police,
ouais.
Dans la police, à rentrer dans la gendarmerie.
Mais non,
on doit être partout.
Puisque l'État
nous
est un État
être
raciste.
Partout. Si nous
la
voulons
France
combattre
est un
le racisme
raciste.
Dans l'institution, je suis le premier, nous le disons, il faut rentrer dans la police,
oui.
Il faut occuper les postes, il faut aller partout.
Occuper
il faut
mais c'est
partout.
Déjà le cas, il n'y a, y a pas de discrimination
vous
ça,
savez, nous
du
avons
recrutement dans la police.
Nous avons un syndicat.
Monsieur Béanzin est pour la colonisation de la France.
Nous avons un syndicat qui s'appelle
Stade. Vous êtes pour la colonisation de la France.
Nous avons un syndicat qui s'appelle STAN. C'est un syndicat pour les travailleurs précaires. D'accord ? Nous invitons les Français qui ne se sentent plus représentés par les autres syndicats à rejoindre notre syndicat, c'est-à-dire pour le peuple par le peuple. Et ça s'appelle pour les oubliés de la République. Donc le syndicat STAN est là pour défendre. Vous savez, nous sommes
mais
tous les jours.
Mais comment vous avez
pu le fonder? Comment
jours, avez-vous
sommes,
pu le
regardez,
fonder
monsieur, nous
comment
sommes
vous
tous
l'avez
les
créé, M. Béandi, le syndicat?
Regardez ici, vous voyez, il s'appelle Jordan. Ce petit, c'est en français. Nous sommes partis jusqu'à Saint-Dizier pour le défendre parce qu'il se faisait agresser. Vous voyez, on nourrit.
Par
nous, on a une banque alimentaire. Quand on fait des maraudes, la plupart des personnes que nous que dehors...
Et c'est pas une raison pour jeter l'opprobre sur toute une institution, monsieur.
Personne,
il peut y avoir des brebis galeuses qui sont condamnées.
Les gens que nous nourrissons le plus, ce sont les Français, comme il se prétend, c'est-à-dire de souche. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui,
attendez,
nous le disons.
C'est dingue,
Nos revendications sont très simples.
Pour finir,
non, mais je finis, il prend la parole.
Allez-y, parce que il faut lui répondre aussi.
Nous revendiquons le pouvoir noir, économiquement, politiquement, socialement. Nous réclamons la fin de l'écho, le pillage des ressources.
Mais
des
donc face à un pouvoir blanc que vous dénonceriez, c'est ça, il faudrait instituer un
monsieur,
pouvoir noir
depuis
rejeter un pouvoir que vous considérez blanc.
Non, c'est pas pouvoir. Nous parlons d'un pouvoir
c'est
parce
un
que
racisme.
Les blancs
c'est
ont déjà un pouvoir.
C'est une définition du suprémacisme.
Voilà.
Mais
voilà,
déjà,
c'est ça,
nous, ouais. On n'est pas dans le racialisme. Vous n'êtes pas blanc,
bien
monsieur.
Bien sûr que
moi,
si,
je suis marron, vous êtes rose.
En fait, rose, c'est pas
dans le racialisme.
Rose, c'est pas anodin.
On n'est pas dans le racialisme.
Mais pourquoi vous me définissez par rapport à ma couleur de peau, par exemple?
Monsieur, pourquoi vous nous définissez par rapport à notre couleur?
Parce que c'est vous qui mettez ça sur le sujet. Vous dites qu'il faut rétablir un pouvoir noir en France.
Parce qu'on n'est pas dans le racialisme, monsieur. Vous comprenez? Nous, on ne reconnaît pas.
C'est contraire à
la couleur. C'est-à-dire, votre couleur, on ne le reconnaît pas. Blanc, c'est ça. Est-ce que vous êtes blanc comme ça, monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes blanc comme ça? Alors arrêtons de dire n'importe quoi.
Il y a plus 5 minutes de débat.
Ce monsieur est un paradoxe sur pattes. C'est-à-dire qu'il fonde des syndicats. Il réclame qu'on rentre dans la police. Il réclame qu'on prenne le pouvoir économique tout en nous disant que la France est un pays totalitaire, un pays raciste, un pays intolérant. Donc en fait, votre démarche, c'est une démarche de colonisation de la France. Vous nous trouverez toujours en face de vous.
Ben non, mais qui vous? Mais monsieur. Vous savez,
vous ne coloniserez jamais la France.
Êtes-vous au courant quand même que la France pratique le néocolonialisme alors nous parlons en
Afrique. Mais non, ça c'est
Est-ce que la France est encore une démocratie
c'est
selon
une
vous
excuse.
La démocratie c'est quoi selon
Arrêtez
vous
avec ça.
La démocratie.
Vous croyez, non mais c'est pas à moi de dire. C'est à moi de vous poser la question.
Un pays qui
vous considérez que la France n'est pas une démocratie.
Les élites africaines sont défaillantes.
La France est un pays qui s'érige en pays de démocratie, pays des droits de l'homme. Mais dans ce pays, quand on est noir, on doit mendier, on doit ramper pour pouvoir trouver un travail.
Ah ouais.
Trouver un logement.
Ah ouais.
Vous savez, aujourd'hui, je
vous
ne suis pas ici.
Vous êtes logé par qui, monsieur?
Monsieur, laissez-moi finir.
Vous êtes logé par qui?
Je ne suis pas ici.
Vous vivez
pour condamner.
Grâce à qui?
Monsieur, je ne suis pas ici pour condamner les Français ni les policiers. Je suis ici pour dénoncer, pour condamner les conditions des Noirs dans ce pays.
Bien sûr.
Vous comprenez? Je suis ici pour défendre les conditions du peuple. Que l'État français, le peuple français que l'État opprime. Et nous réclamons
la fin que l'État français opprime le peuple
français.
Monsieur est gavé de prestations sociales accordées par la France et vient nous donner des leçons sur l'intolérance de la France.
Alors une fois,
vous n'aimez pas la France,
c'est de la diffamation.
Partez.
Vous savez, je n'ai jamais touché.
Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est ça que je réponds.
Bien sûr
que si. Écoutez, je n'ai jamais touché d'assédic ni de prestations sociales. Je suis chef d'entreprise. Vous voyez? Savez c'est quoi? Je travaille, j'ai une entreprise d'aide à la personne.
Oui.
Je m'occupe, j'emploie 4 personnes.
Vous avez jamais touché de prestations sociales?
Jamais de la vie. Et je vous défie aujourd'hui sur cette radio de le prouver.
Voilà.
Je suis chef d'entreprise, j'emploie 4 personnes qui s'occupent des Français, des personnes âgées. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire nous, on s'occupe des Français.
Toutes couleurs confondues,
monsieur. Toutes couleurs confondues. Je suis chef d'entreprise. Je n'ai jamais touché de prestations sociales. Je ne connais pas. Et puis les prestations sociales, c'est pour les Français.
Vous noterez,
ce n'est pas que pour les Africains.
Dès qu'il s'agit de croquer du pognon, là, il n'y a plus de race, forcément.
Le pognon que la France utilise vient de l'Afrique, monsieur.
Mais arrêtez avec ça.
Regardez, vous êtes bien de manger le camembert président.
Attendez.
Ça vous dérange de défendre le camembert président?
La France,
ça ne vous dérange pas.
La France, en tant que pays, et j'en suis content, a fait effectivement acte de repentance à plusieurs reprises. Nous avons des cérémonies mémorielles
C'est de la décoration, monsieur. C'est de la décoration. Nous réclamons la réparation.
L'esclavage
n'a jamais été réparé. La colonisation n'a jamais été réparée.
Moi maintenant,
voulez-vous réparer tout cela ou pas?
Je peux vous
répondre. Je pense qu'il est temps de revendre le chapeau
Versailles
aux Chinois pour réparer les crimes contre l'humanité que l'État français, que la France, parce que la France
existe
toujours.
Laissez-moi répondre. Est-ce que vous êtes prêt à remercier la colonisation française, pour la pénicilline,
voilà.
Pour, pour l'infrastructure,
ça, c'est
pour les hôpitaux,
monsieur,
pour les écoles.
Monsieur,
remerciez la France.
Ça, c'est l'idée colonialiste.
L'Afrique
la
est
France n'a plus fini de tuer.
L'Afrique est rentrée dans l'histoire.
La colonisation a tué, monsieur. L'Afrique, si vous défendez la colonisation,
l'Afrique,
ça prouve que vous êtes un nazi, que vous êtes un fasciste.
L'Afrique est
vous
rentrée.
Êtes un fasciste et vous aurez toujours sur votre... Vous savez, vos sympathisants sont venus me menacer de mort.
Arrêtez avec cette phraséologie.
Vous êtes d'accord qu'on me menace de mort parce que je viens débattre face à vous.
L'Afrique est...
On menace de mort, disant qu'ils vont me mettre une balle dans la tête.
C'est n'importe
des sympathisants
c'est, non, c'est
de monsieur
quoi.
Houssama, excusez-moi,
c'est
de monsieur Houssama
écoutez,
Bourros, c'est cas, vos sympathisants m'ont menacé de mort de me mettre une balle dans la tête.
Remercier,
voilà ce que vous êtes au Front
France,
National. Le Rassemblement National, vous voulez...
Parce que grâce à la France, l'Afrique est rentrée dans l'histoire, monsieur.
C'est grâce à l'Afrique que la France est rentrée dans l'histoire.
Aujourd'hui, regardez la situation de
la civilisation africaine. C'est ça qui fait que vous existez.
Je vous remercie tous les deux d'avoir participer à ce débat. On n'aura pas beaucoup l'Égypte, entendu puisque vous interrompez l'un et l'autre en permanence.
L'Égypte dont vous êtes issu est une civilisation
Jean Messia, Egoun Chibenzin, merci d'avoir participé à ce débat. Je vous demandais de quitter ce plateau et dans un instant on se retrouve avec Gilles Clavreul. C'est la fin, malheureusement on doit rendre l'antenne. C'est noté. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant avec Gilles Clavreul pour débriefer de ce débat. Merci.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Voilà, je suis de retour dans ce studio où vous l'avez vu, la tension est montée d'un cran au cours de ce débat entre Egounchi Béanzin pour la Ligue de Défense Noire Africaine et Jean Messia pour le Rassemblement National. Alors avec nous pour débriefer de ce débat, et on le remercie d'être avec nous en direct, c'est Gilles Clavreul. Bonjour Gilles Clavreul, vous êtes bien avec nous ?
Bonjour Eric, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, un peu plus de calme, c'est fait du bien parce qu'il y a eu tellement d'invectives qu'en effet, ce débat, on n'en a pas compris grand-chose puisque personne ne s'est laissé parler. Alors je rappelle que vous êtes ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous êtes également délégué général de l'Aurore, un club de pensée républicain et progressiste et préfet en disponibilité. Et enfin, vous êtes fondateur du mouvement Printemps Républicain. Tout d'abord, une réaction comme ça, à chaud. Vous avez suivi ce débat à distance, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors je l'ai écouté pour l'essentiel en audio et puis sur la fin j'ai mis l'image pour me connecter et c'est vous
qu'est-ce
que j'ai
que
regardé,
ça dit
Eric.
Ah, bon.
Et j'ai vu votre regard par moment un peu affligé parce que ça prenait des proportions telles que oui, il y avait une certaine détresse dans vos yeux. Vous me
non, mais ça dit quelque ça chose. Ça veut dire qu'il y a une partie de la France qui ne peut plus parler à une autre partie de la France, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ?
Alors, exactement, c'est ça. Mais avant ça, je me demande, j'essaie de me mettre dans la peau des auditeurs qui, pour la plupart, j'imagine, ne sont pas vraiment familiers de ce genre de débat et qui ont dû se dire, mais on est dimanche midi sur la Lune, là. On a des gens qui s'invectivent, qui emploient des mots
Oui, mais en même temps, vous êtes d'accord qu'il faut les organiser, ce type de débat, ou pas ?
Oh, j'ai pas dit ça. Oui, non, mais c'est, enfin, disons que ça, en tout cas, ça donne à voir. Moi, je veux pas porter de jugement, mais ça donne à voir ce que moi j'appelle depuis un petit moment la tenaille identitaire. C'est-à-dire que vous avez deux discours qui se font face à face et qui procèdent tous les deux d'une logique identitaire. C'est-à-dire, mon identité n'est pas négociable. Ce que je considère comme étant ce que je suis, ce qu'est la société dans laquelle je vis, le monde tel que je le vois n'est pas négociable et il y a, face à ça, des attaques, c'est-à-dire c'est l'autre camp, c'est l'autre partie, le camp d'en face qui veut détruire mon modèle, mon identité, ma civilisation, ma façon de voir les choses. Alors, évidemment, dans ce débat, ce qu'on a pu voir pour plein de raisons, Jean Messia a presque la partie facile, parce que il est un peu plus structuré intellectuellement, il paraît presque modéré, mais enfin bon, quand vous avez un discours de quelqu'un qui dit 2 et 2 font 6, celui qui dit 2 et 2 font 5, il a l'air plus raisonnable. Bon, mais il n'est pas plus dans le vrai pour autant. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que à de multiples moments de l'entretien, il jouait presque à front renversé. C'est-à-dire que vous avez un Jean Messia qui célèbre la République de la diversité, du creuset républicain, multiculturaliste, riche de tous ses apports. Et puis alors, vous avez un monsieur Béanzin qui lui répond, j'ai noté cette phrase parce que je la trouvais assez incroyable, il faut accepter le fait qu'un Français qu'en France, des gens soient enracinés et assument leur identité. Ben ça, c'est le discours, même pas du Front National, c'est le discours de l'extrême droite identitaire. Prenez ce nombre de phrases, vous le trouvez dans la presse nationaliste depuis toujours. En réalité, c'est une matrice intellectuelle qui est strictement la même que celle de l'extrême droite. Alors, là-dessus, le Rassemblement National, 35 ans qu'il est dans le paysage politique, même davantage, mais en tout cas, qu'il a gagné des voix, des suffrages, il s'est un peu édulcoré, il essaye de s'adapter.
Mais enfin, là, excusez-moi de vous interrompre, Gilles Clavreul, c'est moins le débat. Oui, allez-y.
J'en ai pour 3 secondes. Bon, mais enfin, fondamentalement, on l'a bien vu d'ailleurs dans les bisbilles entre Marine Le Pen et Marion Maréchal pendant la semaine, il y a un conflit entre une version républicaine, qui se veut républicaine en tout cas, hein, du discours du Rassemblement National, et une version plus identitaire dont Marion est la porte-parole, se veut la porte-parole.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé surtout de ce discours que beaucoup, que d'aucuns en tout cas considèrent comme suprémaciste, la part en effet de cette Ligue de défense noire africaine, hein, dont certains des dirigeants en effet du Rassemblement national appellent à la dissolution? Vous avez travaillé donc, c'était sous la gouvernance de Manuel Valls. Quel regard aujourd'hui vous auriez si vous étiez encore délégué interministériel à la lutte contre le racisme face à ce type d'association? Quelle recommandation vous feriez au gouvernement?
La Ligue de défense noire africaine, en fait, est un tout petit mouvement. On est en dessous du groupuscule. Et d'ailleurs, ils ne sont pas associés, en fait, hein, au cœur des mobilisations.
Bah, ils en ont organisé quand même. Ils étaient à l'origine de 2 des 3 manifestations, je crois, la semaine dernière. Ils appellent à manifester la semaine prochaine.
Non, ils font pas partie du collectif Adama. Et c'est pas tout à fait les mêmes bandes. Alors, c'est pas exonératoire, hein, par rapport au collectif Adama, ce que je dis là. Mais c'est pas tout à fait les mêmes réseaux militants, si vous voulez, et dans le collectif Adama ou même dans des associations un peu plus institutionnelles, entre guillemets, comme le CRAN, par exemple, on est on met à distance la LDNA parce que la LDNA se situe en effet dans une filiation suprémaciste noire en prenant modèle, en fait, sur les États-Unis, sur Malcolm X, d'ailleurs, il l'a dit.
Hein, donc et il l'a cité, oui.
C'est effectivement une logique et une lecture raciale. C'est pour ça que ce qu'il a dit, pour l'essentiel dans le débat, en se réclamant de la République, était parfaitement contradictoire et orthogonal avec ce que défend la LDNA d'habitude. Ils ne sont pas du tout sur ce positionnement idéologique-là. Pour le reste, effectivement, nombre de prises de position de la LDNA tombent sous le coup de la loi de 36 sur la dissolution des ligues. À l'époque, c'était contre les ligues d'extrême droite. Il y a de multiples provocations à la haine raciale, notamment dans les propos de la LDNA. Et donc, effectivement, c'est un groupe qui pourrait être dissous un jour ou l'autre.
Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la France est devenue un pays communautariste, Gilles Clavreul?
Non, je ne dirais pas ça, parce que c'est quand même très éloigné de notre histoire. C'est très éloigné de la manière dont la nation française s'est construite. Pour autant, on ne peut pas nier que les thématiques identitaires, qui sont pour beaucoup des produits d'importation américaine notamment, ces thématiques-là ne cessent de monter, pas seulement depuis 6 mois ou 2 ans, mais depuis une trentaine d'années. Donc oui, il y a une importation d'une lecture identitaire, je dirais plutôt identitaire que communautariste, de la société, avec ses limites aussi, parce que là, on voit qu'en fait, ce qui réunit les gens, c'est la lutte contre le racisme et la dénonciation des violences policières réelles ou supposées.
Voilà.
C'est pas véritablement une lecture communautariste qui s'est imposée. Ça veut pas dire, par contre, que ceux qui sont à l'origine de ce mouvement ne sont pas porteurs de certaines ambiguïtés sur ces questions-là.
Et alors, sur cette question, justement, des violences policières, vous le disiez, réelles ou supposées, pour vous, est-ce qu'il y a une réelle dérive où la force utilisée est proportionnelle à la violence des manifestants, de manière générale?
Bah, en fait, on met beaucoup de choses dans le même sac et c'est un peu le problème de tous ces débats, c'est-à-dire qu'on finit par plus trop savoir de quoi on parle. Entre une affaire, celle d'Adama Traoré, donc qui est réactivée à l'occasion…
Et qui n'est pas tout à fait comparable à celle de George Floyd aux États-Unis, hein, on le rappelle, puisqu'il y a une américanisation.
Qui n'est pas tout à fait comparable, d'abord, bon, et puis tout simplement parce qu'il y a une instruction qui est en cours et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a des expertises qui se contredisent. Bon, laissons ça de côté. Entre cette affaire-là, le contexte plus général dit des violences policières, où ce n'est pas nécessairement la question du racisme qui est au cœur du sujet, on l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, ou avec, on l'a déjà oublié, mais il y a eu la polémique de Sivens, les ZAD, etc. Donc en fait, c'est un sujet beaucoup plus large que ça, et qui n'est pas enfermé dans une lecture strictement identitaire, communautaire, comme elle l'est aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on est déjà sur des terrains qui sont très différents. Et puis après, il y a d'autres questions qui existent aussi, de discrimination, là aussi, réelle, pour une large part, supposée ou alléguée, pour une part aussi, et qui sont encore un sujet différent. Le problème, c'est quand on est dans des moments de mobilisation, de tension, d'expression de l'émotion, c'est très, très difficile d'arriver à remettre un petit peu de sérénité, de rationalité. C'est normal que l'émotion s'exprime, mais il y a un moment aussi où il faut pouvoir se mettre à table et discuter de façon plus posée quand même.
Est-ce que selon vous, on devrait revoir l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui enseignée à l'école et peut-être mieux expliquer, on l'a vu, hein, c'est des échanges très vifs à ce sujet, mieux expliquer le passé colonial de la France, la guerre d'Algérie, etc., sujets qui sont encore mal assumés et pour beaucoup tabous?
Alors, on peut toujours mieux faire. Il faut dire quand même qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante des programmes par les programmes de la colonisation, de l'esclavage. Bon, c'est toujours imparfait, évidemment. C'est pas ni à Monsieur Messia ni à Monsieur Berndsen que je m'adresserai en premier pour améliorer les programmes, si vous voulez, parce que à chaque fois, dans la meilleure des hypothèses, on a une vision très très partielle et très caricaturale des choses. Et puis il y a aussi, on a entendu de grosses bêtises, des gros mensonges historiques, des choses qui veulent absolument rien dire de part et d'autre. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a certainement, mais je ne sais pas si c'est vraiment le problème des programmes d'histoire, la manière dont l'histoire est enseignée à l'école, il y a un vrai sujet, mais qui n'a pas de rapport direct avec les mobilisations qu'on vit ces derniers jours. Il y a un vrai sujet dans la relation France-Algérie et sur les conditions de la décolonisation algérienne. Ça c'est clair. Là, on a un impensé de notre décolonisation, de notre relation à l'Algérie, qui est, si vous voulez, la version française, authentiquement française, du problème noir aux États-Unis. C'est pour ça que les choses ne sont pas transposables entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, parce qu'en France, aux États-Unis, pardon, c'est vraiment la question noire qui est au cœur du sujet. En France, on l'a vu, elle prend d'ailleurs des dérivations et des formes différentes avec la question religieuse, la présence de l'islam dans la société française. C'est beaucoup la relation avec l'Algérie qui se joue, qui s'exprime et qui subit plein d'avatars d'ailleurs dans l'histoire contemporaine.
Vous avez retweeté notamment Gilles Clavreul le billet de la journaliste Tania de Montaigne sur les états généraux de la sécurité et des libertés. C'est ce que vous préconisez également ?
Oui, alors ça s'est trouvé, on est sur des, mais c'est pas étonnant, des propositions et des idées parallèles. De notre côté, avec nos amis du Printemps républicain, on a proposé un Beauvau de la relation police-population. En fait, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre les acteurs autour de la table pour parler sereinement de ces questions-là, et parce qu'on sait bien que oui, effectivement, il y a des dérives de la part d'un certain nombre de policiers ou de gendarmes, comme dans toutes les institutions. Évidemment, c'est plus grave qu'ailleurs, parce que là, il y a l'emploi de la force publique. Et donc, il y a une question d'égalité républicaine derrière et de confiance que le citoyen peut avoir.
Mais vous pensez qu'il est encore crédible, Christophe Castaner, quand on voit tous ces appels à la démission et puis ce qui se passe en ce moment ?
Oh, ben, c'est difficile, évidemment, hein, parce que la situation est très, très tendue, mais je crois que je vais pas porter de jugement sur l'homme. De manière plus large, on sent que c'est l'exécutif qui est quand même un peu sur les talons et qui ne sait pas tellement se positionner sur ces sujets. Peut-être que le président de la République va avoir à cœur de clarifier ça ce soir. On va l'écouter évidemment avec attention. Mais on a des espèces de mouvements de balancier en fait entre soutien aux forces de l'ordre. Vous avez hier Sibeth Ndiaye qui a appelé à la constitution de statistiques ethniques, ce qui à mon avis est une très mauvaise idée parce que c'est remettre de l'huile sur le feu. Bref, c'est pas clair et on a besoin au contraire que le pouvoir politique clarifie les choses et apaise les choses.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles Clavreul, d'avoir accepté de conclure merci. Cette émission. Ça n'était pas facile. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous retrouve dimanche à 13h sur Sud Radio pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Je vous rappelle bien sûr que le débat est possible à revisionner en replay sur la chaîne officielle YouTube de Sud Radio. Merci au réalisateur Quentin Cabanis, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. De même qu'au digital, à Nicolas Philippi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à la semaine prochaine, 13h, dans les Incorrectibles. Correctif sur Sud Radio.